en très très bonne compagnie parce qu'il y a Jeanne Sarr à mes côtés. Jeanne Sarr, je vais résumer en quelques mots, même si c'est un défi énorme, tant il fait beaucoup de choses qui vont dans beaucoup de sens, on va en parler. Donc il est né en 1971 à Nice, il a effectué des études de philosophie avant de s'inscrire à l'école des Beaux-Arts à Paris. Son envie de BD l'a très vite démangé. Depuis qu'il est notamment petit, il est quasiment né avec un crayon dans la main. Et donc, il n'a pas hésité à envoyer ses projets à des éditeurs dès l'âge de 15 ans. Son talent s'est imposé un rien plus tard, avec une saga médiévale pour adolescents, Donjon, ou La fille du professeur, mais il a surtout explosé avec le succès du Chat du rabbin, qui a été également adapté sur grand écran. Et depuis, à vos souhaits, il multiplie les projets pour enfants et pour adultes. Il touche à tout, il se passionne pour également les grands destins comme ceux de Chagall, de Brassens ou alors de Gainsbourg. Gainsbourg qu'il a adapté au cinéma, sa sauce bien à lui. Et aujourd'hui, comme si ça ne suffisait pas, il a eu envie de tremper sa plume dans l'encrier romanesque, dans un livre qui s'appelle L'Éternel aux éditions Albin Michel. Alors Jeanne Sfar, cette rencontre s'intitule L'univers de Jeanne Sfar, un vaste mot. Comment est-ce que vous décririez cet univers et dans quel univers est-ce que vous avez grandi?
Bonjour. En fait, moi, avant d'être un auteur, je suis avant tout un lecteur et un auditeur et un spectateur. Donc je crois que les histoires... Vous m'entendez? Je crois que les histoires qu'on m'a racontées quand j'étais petit et par la suite des films que j'ai vus, des livres que j'ai lus, sont la seule explication au fait que j'ai toujours besoin de raconter des histoires. J'ai besoin de me mettre en état de lecture. Donc même quand j'écris une histoire, c'est comme si je la lisais. Et j'ai toujours travaillé dans le plaisir. Donc les genres dans lesquels je me sens heureux... c'est l'horreur, c'est l'heroic fantasy, c'est le policier, c'est la comédie. On a pu appeler ça des sous-genres. Après, moi, c'est ce qui me rend heureux. Donc c'est des choses que je porte un petit peu comme des médailles. Je crois que c'est le point commun de tous les récits que j'écris. À chaque fois, ça part sur un genre très déterminé, le mousquetaire, le vampire, l'heroic fantasy ou quoi. Je ne peux pas m'empêcher d'y mettre de la comédie parce que je ne peux pas m'empêcher de faire marrer. Et je ne peux pas m'empêcher d'y mettre des trucs intimes, même si ce n'est pas fait pour. C'est-à-dire, il a pu m'arriver de faire des bandes dessinées autobiographiques où je raconte mon quotidien ou quoi, mais je ne dis jamais autant mon intimité que quand je me dessine en mousquetaire ou en vampire ou en je ne sais pas quoi. Ça permet de placer les trucs un peu en loose-dé. Donc voilà, je crois que comme la plupart des gens qui font profession de raconter des histoires, c'est l'activité qui me rend le plus heureux sur cette planète. Je suis jamais très heureux quand on raconte que je suis un touche-à-tout ou que j'essaye mille choses différentes. Je crois que c'est absolument pas vrai. Je passe ma vie à raconter des histoires avec des personnages qui se ressemblent beaucoup d'un livre à l'autre et qui ont la même voix. Alors maintenant, je change d'outil pour raconter ces histoires-là, tout simplement pour pas m'endormir, parce que j'ai envie d'essayer, parce que je me prends pour un maître de rien du tout. Moi, j'aime beaucoup être un élève, j'aime beaucoup être en apprentissage. Et la pire chose serait qu'à un moment, je me mette à me caricaturer moi-même. Donc, je ne suis pas le garçon qui vous livrera un album de Petit Vampire chaque année ou un album du Chat du Rabbin chaque année, parce que je crois qu'on vieillit trop vite à faire ce genre de choses. Moi, ce qui me motive pour commencer une histoire, c'est quand j'ai le sentiment de ne pas savoir. Donc, j'avais le sentiment, il y a quelques années, d'avoir publié des romans aux éditions de Noël, ça s'appelait L'Homme Arbre. Et je me suis aperçu, à voir les libraires, à voir les gens, etc., que ce n'était pas des romans, c'était des romans illustrés. Je n'en avais pas eu conscience. Et je me suis dit, ah oui, alors quand on enlève les dessins, ça devient autre chose. Je ne sais pas, essayons. Donc c'est pour ça que je me trouve là maintenant à faire ce livre de vampire chez Albin Michel. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit une révolution dans mon quotidien. Pour moi, c'est une continuation logique de mon labeur quotidien.
Une continuité qu'on retrouve également dans toute votre œuvre, c'est l'univers juif. Pourquoi est-ce que ça vous imprègne autant?
Parce que je suis né là-dedans. Je suis né dans une famille juive moitié algérienne et moitié russe. Et toutes les voix que j'ai entendues dans mon enfance étaient des voix juives, même si la plupart étaient anticléricales, non-croyantes pour certaines, hostiles à la religion. N'empêche que ça se racontait dans une famille juive, et il me semble quand même que les juifs, les chrétiens et les musulmans sont trois versions de sectes qui se ressemblent beaucoup. Donc je crois qu'on se fréquente depuis assez longtemps pour pouvoir se comprendre. C'est tout le paradoxe de mon travail. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas croyant, et tous mes personnages sont juifs, tout simplement parce que s'ils cessaient de l'être, je serais dans le mensonge par rapport aux voix qui me sortent du cœur. Je crois beaucoup à une voix juive qui serait une voix culturelle. Je crois beaucoup que d'où qu'on vienne, on se fait très souvent voler notre identité par des prêtres ou par des symboles un peu trop simples. Si on voit ce que c'est que j'ai parlé de ça hier au sujet des soviétiques. Il y a une chose que j'aimais bien en Russie soviétique, c'est peut-être la seule, c'est que quand vous étiez juif, c'était marqué sur votre carte d'identité, mais pas en tant que race, pas en tant que religion, en tant que nation. Les Russes considéraient que de la même manière que sur leur grand territoire, il y avait des Ouïghours, des Tatars, il y avait des Juifs. C'était une des nombreuses nations du territoire soviétique. Donc, s'il n'y avait pas eu le nazisme et tout ça, je pense qu'on vivrait assez bien avec l'idée que la voix juive est une des voix de la polyphonie européenne. Si on peut même aller presque plus loin dans la provocation, il me semble que l'idée d'Europe, donc l'idée que les monarchies devaient tomber au profit de quelque chose qui allait englober le territoire européen et nous aider à être aussi forts que les autres empires, que la Chine, que l'Amérique, que ce soit, il me semble que c'est une idée qui est née avec Spinoza. Je crois qu'il n'y aurait pas eu Nietzsche s'il n'y avait pas eu Spinoza, je crois qu'il n'y aurait pas eu les Lumières s'il n'y avait pas eu Spinoza. Et donc, on a là une idée très européenne. On a là l'idée de cette Hollande qui est devenue forte parce que l'Espagne était devenue folle à un moment. Et des forces espagnoles sont parties se réfugier en Hollande et ont inventé à la fois des très grands voyages, à la fois une pensée particulière. Donc beaucoup de Juifs sont allés chercher leur terre promise en Palestine ou en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Moi, je fais partie de ces Juifs qui ont une certaine fierté à rester européens et à penser que leur voix doit se fondre dans les autres. Il y a une... C'est rare que je sois fier des Juifs. Il y a un moment où j'en ai été très fier, c'est quand le général de Gaulle a lancé son appel du 18 juin, et il a eu cette phrase terrible que j'adore, il dit, parce qu'il s'attendait à... Il a dit, j'attendais les grandes France et la noblesse, ce sont les Juifs qui sont venus. Et cette idée de Romain Gary qui se bat pour piquer un avion pétainiste pour partir à Londres, c'est les trucs qui me font battre le cœur. Mon grand-père, qui a été l'aide de camp d'André Malraux, qui a sauvé la main d'André Malraux quand il était dans la brigade d'Alsace-Lorraine, voilà, c'est des choses qui me rendent heureux. Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, pourquoi je suis non là-dedans? Parce qu'il y a un réveil identitaire en France aujourd'hui, que j'aime beaucoup, mais qu'on comprend très mal. On explique aux enfants, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, on leur explique qu'ils doivent connaître leur identité, et on leur raconte ça comme si c'était une exclusive. Comme si tu dois connaître, il va y avoir un truc marqué sur... Mais non, c'est formidable. Moi, je déteste la fusion, je déteste la world music, mais c'est formidable d'être plein de trucs à la fois parce que c'est possible. Il y a une réalité schizophrène de la modernité aujourd'hui. Moi, je peux dire le même jour que je suis un juif berbère parce que c'est vrai. Je peux dire le même jour que je suis un laïc républicain parce que c'est profondément vrai. Et je vois peu de gens aussi français que moi quand je vois les idéaux que je mets en avant. Cette ambiguïté-là, il faut pas la résoudre. Parce que ça fait le dialogue, parce que ça fait la discussion, parce que c'est pour ça qu'on a envie de raconter des histoires. Donc moi, je suis très favorable au réveil identitaire si on ne le résout pas. C'est drôle parce que je suis né dans un truc un peu honteux. Je suis né à Nice et mon papa était adjoint de Jacques Mesmin. T'imagines le truc après quand t'arrives à Paris et t'essayes d'exister dans autre chose. Et elle est marrante, cette région niçoise, parce que on a eu beaucoup de mal quand j'étais petit à lui inventer une histoire. Marseille, ça tombait de source parce qu'il y avait un prolétariat à Marseille, parce qu'il y avait tout ça et tout. Et Nice, on avait l'impression d'être l'endroit que traversaient les monégasques pour aller en... tu vois, bon. Et petit à petit, ce truc, ça se réveille, et ça se réveille de manière assez chouette. Et ça s'est réveillé à un moment que j'ai adoré quand j'étais petit. Je fais partie de la Fédération anarchiste de Nice, bon, c'est-à-dire le centre-gauche. Et à un moment, Jacques Médecin, donc le copain de mon papa, n'a pas trouvé mieux que de recevoir Jean-Marie Le Pen au palais, enfin, à la mairie pour lui remettre une médaille. C'est son copain, il voulait lui remettre une médaille. Il n'avait pas de peau, Le Pen. Parce que Le Pen, qu'est-ce que ça veut dire en Issarthe? Ça veut dire le cul. C'est pas ça. Alors on avait fait des affiches où on avait tous montré nos fesses et on avait dit qu'on montrait nos fesses à Le Pen. Ça, on était très contents. Alors j'arrête avec ça, je continue parce que le terroir niçois, ça m'excite. Est-ce que vous savez ce qui est la Marianne niçoise, notre héroïne? Elle s'appelle Catherine Séguran. Catherine Séguran, elle était lavandière à Nice Et un jour, les Ottomans ont voulu envahir la côte d'Azur, donc ils arrivaient près des remparts. Qu'est-ce qu'elle a fait avec son battoir? Elle est montée sur les remparts et elle leur a montré son cul. Et alors, c'était pas comme les femmes, c'était pas le cul le plus désirable de l'école, c'était celui d'une lavandière, mais cet exemple-là de la lavandière niçoise qui... Moi, je l'aime bien. Voilà, donc, je viens d'une région qui est pas très noble, mais que j'aime bien.
Alors, celui qu'on aime bien, c'est aussi votre nouvel héros, Jonas, qui, dans le genre ambigu et schizophrène, est pas mal non plus, parce qu'un vampire juif, quand même, il n'y en a pas 150. Pourquoi ce mélange d'étonnant à travers ce personnage?
Oui, il y a une peut-être prise de conscience. Là. Moi, je fais des histoires de vampires depuis toujours. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais j'ai eu l'impression que depuis quelques années, il y avait une agressivité, je ne sais pas si c'est dans toute l'Europe, mais en tout cas en France, qui montait vraiment. Alors, peut-être qu'il y a un siècle, c'est aux Juifs qu'on s'en prenait. Mais là, en l'espace d'un an, j'ai vu qu'on s'en est pris aux riches, ensuite aux homosexuels, ensuite à la figure présidentielle. C'est passé inaperçu, mais la haine qu'on a eue contre Sarkozy, je la trouvais complètement irrationnelle. Maintenant, on a la même contre François Hollande. Je veux bien croire que ce sont deux cons, mais pas les monstres qu'on nous décrit. Et là, c'est la fonction présidentielle qui est visée. Et je me suis dit, mais en Europe, on a toujours besoin de s'en prendre à un vampire pour taper dessus. Et je me suis dit, mais comment on soigne ça? Et j'ai repensé au parcours de Lubitsch, qui était cinéaste expressionniste, qui a travaillé avec la Oufa, qui a fait tous ses films tragiques, muets, étranges, tristes. Il part en Amérique et il invente la comédie américaine. Donc faire ça, faire une histoire où le Nosferatu de Murnau ne sait pas quoi faire de sa carcasse finalement, parce qu'en Europe, il y a toujours cette menace d'exterminer ou de se faire exterminer, ou en tout cas de passer une mauvaise nuit. Et tout d'un coup, après avoir fait ça pendant 100 ans, il rencontre une psy américaine qui a l'air de sortir de chez Woody Allen et qui lui dit « Écoutez, monsieur, quand on fait toutes les nuits la même chose pendant 120 ans, au bout d'un moment, on consulte. » Donc ça m'a amusé. Et je crois, pour revenir au Nosferatu de Murnau, je crois qu'il est le seul à ne pas savoir qu'il est juif quand on voit le film. Parce que c'est d'abord Max Schreck, le comédien, était totalement juif. En plus, il avait un jeu qui venait absolument du théâtre yiddish. Et la détestation que dit la figure du vampire dans le cinéma de cette époque, ça dit ça. Ça dit la peur conjointe du juif, du bolchevique et de la peste qu'on mélange un petit peu. C'est toujours marrant de voir quand apparaissent les monstres. Une petite fille, il y a deux jours, qui me demandait si c'était vrai, les monstres ou les vampires ou quoi. L'historique des vampires en Europe, c'est extraordinaire. Je vous recommande, si vous aimez les contes de fées et les fables, de lire un livre de Pierre Péjus qui s'appelle « La petite fille dans la forêt des contes ». Il étudie toutes les légendes. Et il dit qu'il y en a une qu'on n'a pas en Europe, les Chinois l'ont, les machins, c'est le vampire. On n'a pas de légende de vampire avant, selon moi, Alexandre Dumas, selon lui, Bram Stoker. Pourquoi? Parce que le sang dont se repaît le vampire, ça n'est pas un symbole, ça n'est que du sang. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que quand les vampires sont apparus chez nous, entre la France et les Carpates et tout ça, ils étaient considérés comme un fait scientifique, comme une maladie, comme une hérésie, certainement pas comme une légende. Les premières traces de vampirisme en Europe, ce sont des tombes qu'on a réouvertes récemment, où on a trouvé une pierre dans la bouche des cadavres, parce qu'on avait peur qu'ils reviennent en vampire. Ce sont des rapports de médecins du XVIIIe siècle qui classent le vampirisme parmi les maladies. Le moment où le vampire devient romanesque, selon moi, c'est le comte de Monte Cristo. C'est le moment où on a fait une injustice à Edmond Dantès. Il va faire croire qu'il est mort, il va revenir de la tombe pour se venger de manière implacable de tout le monde, de manière même quasi surnaturelle, et il va même sauver les jeunes héros à la fin en les mettant dans une tombe et en les faisant revivre. Il y a ça à la fin du... C'est la... Et alors sa compagne, c'est une très belle grecque qui s'appelle Haïté, c'est pour ça que j'ai mis une Haïté là-dedans. Et à quel moment apparaît le vampire de cinéma? Au moment de la peur des bolcheviques, des juifs et de la peste. Voilà. Le monstre du Loch Ness et King Kong sont nés en 1933. L'année d'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et l'année de la naissance de mon papa, c'est-à-dire le nombre de trucs qui sont passés sur moi. Quand il y a eu la guerre froide, on a eu les soucoupes volantes. Donc je ne veux pas aller de manière excessive chez Jung, pour qui je n'ai pas une passion débordante, mais il y a quand même des moments où les monstres apparaissent parce qu'on a besoin de taper sur quelque chose.
Dans Le chat du rabbin, il y a le rabbin qui dit à un moment donné justement que la main humaine est un outil subtil. À partir de quand, Jeanne-Soir, vous avez découvert que votre main était capable de dessiner, que c'était une véritable passion, et qu'est-ce que vous avez envie de croquer?
Moi, c'est ma peluche, hein. C'est la chose sans laquelle je ne trouve pas le sommeil, le dessin. Donc, il y a plusieurs raisons au dessin. J'ai eu le malheur de perdre ma mère avant l'âge de 4 ans, et à ce moment-là, je me suis mis à dessiner, pas pour faire des belles choses, mais sans doute comme font des primitifs, pour créer des visages, pour créer des présences, pour créer des totems. Donc j'avais besoin de la présence de mes dessins. Ça, je crois que c'est la première envie. Ensuite, il y a une manière de faire écran au monde. Il y a, quand l'épouse de Monet décède, tout ce qu'il trouve à faire, alors que le cadavre n'est pas en très bon état, qu'il est sous une moustiquaire et que sa femme a été beaucoup plus belle que ça par le passé, ce qu'il trouve à faire, c'est de s'asseoir à côté et de faire une peinture, et de faire un portrait de son épouse, pas parce qu'il trouve ça joli, mais parce que c'est le seul moyen de rendre cette réalité supportable. J'ai pu le toucher du doigt au moment où je faisais des autopsies à l'hôpital Pasteur de Nice. Grâce à mon carnet, je n'étais jamais horrifié par la proximité de la mort. Et je me suis rendu compte, après 20 ans à faire des vampires, en bande dessinée, que je faisais des vampires comiques, des vampires pour les enfants, des vampires ironiques. Peut-être que j'étais en train de me protéger des images qui me font vraiment peur. Donc sans doute que dans ce roman, il y a eu l'envie d'enlever les images. Et vous savez, quand on a perdu quelqu'un et qu'on est petit, la pire chose à l'école, c'est que les autres vous traitent bien parce qu'ils ont une espèce de commisération ou machin quoi. Donc moi, j'ai passé toute mon enfance à faire beaucoup de clowns pour qu'on m'aime bien. Donc j'organisais des spectacles, je faisais machin et tout ça. Et peut-être faire des dessins, c'est aussi faire le clown. C'est-à-dire, tu vois, mon monstre, il est gentil, il n'est pas méchant. Enlever le dessin, c'est-à-dire, tiens, est-ce que tu m'aimes encore si je te raconte là, si je te raconte vraiment les horreurs que j'ai en tête, si je te raconte, je vais te faire des blagues de temps en temps, mais quand je vais te raconter des choses abominables, je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Et ça m'intéresse, de voir si on m'aime encore à ce moment-là. Il y a un glissement dans le récit de monstre. Il y a aussi un très beau livre que je vous recommande de Stephen King qui s'appelle Anatomie de l'horreur, dans lequel il décrit tous les types de récits d'horreur et de terreur. Il dit, ils ont tous une chose en commun, c'est définir un monstre et expliquer que nous, lecteurs et nous, société, nous constituons une norme qui se différencie du monstre. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on crée un lien social en disant ce qu'on veut mettre loin de nous. L'inverse de ça, c'est Clive Barker, qui est un romancier beaucoup moins talentueux que Stephen King, mais qui a opéré une révolution intéressante. Il a décidé que dorénavant, dans le récit d'horreur, on serait le monstre. Donc on s'identifie au monstre. Lovecraft l'a fait aussi dans une nouvelle qui s'appelle Je suis d'ailleurs, qui est éblouissante. C'est un type qui se réveille dans le noir, il ne sait pas où il est. Autour de lui, il voit des cailloux, il ne voit rien, il commence à chercher et il trouve un escalier. Il commence à le monter, à le monter, à le monter. Il monte pendant plusieurs semaines et au bout d'un moment, il pousse une pierre et là, il arrive au niveau du sol. Et il arrive dans un village où tout le monde hurle, où tout le monde a peur, machin. Il sent que c'est dans l'auberge que ça ne va pas. Il ouvre la porte de l'auberge. Là, il comprend pourquoi ils ont tous peur, parce qu'il y a un monstre décharné, un œil qui tombe les oreilles comme ça, pas de temps, machin. Et il est attiré inexplicablement vers ce monstre. Il s'approche, il tord la main vers le monstre. Et là, il est confronté au pire des contacts possibles, c'est la surface d'argent d'un miroir. C'est la première fois qu'on s'identifie à un monstre dans cette nouvelle de Lovecraft. Donc là, j'ai souhaité faire ça. J'ai souhaité faire un récit existentialiste sur un vampire. Une fois qu'on a compris qu'il passe une demi-heure de ses nuits à mordre des filles, le reste du temps, il faut bien qu'il se trouve des occupations. Donc ça, et ça, malgré moi, ça devient comique. J'ai beau le raconter avec le plus grand sérieux, quand il adopte un caniche et qu'il doit se demander comment on s'en occupe, malgré moi, ça devient rigolo. Ou quand il essaye d'écrire un livre, mais quand on a l'éternité, on finit jamais un bouquin. Moi, je finis un bouquin parce que je sais que j'ai 42 ans dans deux mois, donc là, il y a une espèce d'urgence. Lui, il peut y passer des années, il peut égorger l'éditeur, il peut recommencer, donc il ne termine jamais.
Ce qui ne se termine jamais non plus, vous le disiez, c'est cette envie presque boulimique, j'ai envie de dire, de raconter des histoires, quel que soit le média que vous utilisez. C'est vraiment ça, le fil rouge chez vous. Est-ce que vous diriez que c'est une psychanalyse, parce qu'il y a une psychanalyse dans le roman, que c'est une forme de thérapie pour vous, qu'au contraire c'est une façon de prolonger l'enfance, ou que c'est une façon aussi de... parce que la réalité ou la vie de tous les jours ne vous suffit pas, que c'est une autre façon de vous nourrir?
Non, c'est un petit peu comme le dessin. Vous savez, on pratique le dessin d'après nature et le dessin d'imagination. Je crois que raconter un récit, même complètement fantasmagorique, où un personnage vole, mord des filles, fait tout ça, ça parle du réel quand même. Ça parle. Je crois qu'il y a une différence qu'on enseigne trop peu de mon point de vue, c'est la différence entre le quotidien et le vrai. Il y a beaucoup de films qui sont tournés caméra à l'épaule la nuit dans Paris en courant derrière un flic, qui sont quotidiens, mais qui ne sont pas vrais. Ça ressemble aux images du journal de 20h, mais ce n'est pas vrai. En revanche, quand je relis les pièces de Sophocle, elles sont vraies du premier au dernier mot, parce qu'elles disent des sentiments qu'on a tous en commun. Quand Bachelard explique que pour pouvoir courir, il faut ressentir le vol, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que le principe de la course est impossible pour un animal. Un singe ne va pas se mettre à courir parce qu'il va comprendre qu'il risque de tomber. Il va vouloir que ses mains l'empêchent. L'humain qui court a le courage de se mettre en déséquilibre avant, de se mettre en état de chute et d'envoyer la patte en avant parce qu'il s'est projeté dans le futur et il s'est dit « ma patte va m'aider à ne pas tomber ». Ça s'appelle avoir pensé le vol. C'est pour ça que quand on rêve qu'on vole, on rêve jamais qu'on a des ailes. On rêve qu'on tape avec le talon et qu'on s'envole. Donc moi j'ai besoin, comme j'ai des sentiments forts, angoissants, parfois débiles et tout, j'ai besoin d'avoir recours à des créatures picaresques qu'on voit venir de loin, qui font Quelqu'un a dit récemment qu'un roman français moderne, ça consiste à attendre longuement le décès d'un être cher. Je voudrais éviter ça. Je voudrais faire des récits où il y a des mousquetaires, des monstres, des bagarres. Des gens ont voulu m'insulter récemment et ont dit que je faisais du Young Adult. Je ne pouvais pas faire plus plaisir. Parce que si on avait fait un seul Harry Potter en France depuis 20 ans, le pays irait mieux. Donc moi, je suis très heureux de ça. Toutes les impuretés que j'ai amenées des bandes dessinées, j'ai qu'une envie, c'est de les faire en roman.
Ce qui est intéressant aussi chez vous, c'est que même si dans ce roman il n'y a pas d'image, puisqu'il n'y a que les mots, et en même temps énormément d'images, parce que vous avez une écriture presque cinématographique, et comment est-ce que vous décririez cet univers graphique, cet univers imagé que vous avez, que ce soit à travers les dessins, le cinéma ou les mots ?
George Steiner parle de réelle présence. Il est là l'enjeu d'un récit. Il faut trouver le rythme dans lequel le lecteur ne va pas se poser de questions. Il faut à nouveau que je vous suggère un livre de Stephen King, mais vous l'avez sans doute tous lu. Un jour, il s'est fait renverser par un camion, donc il était trop groggy, il ne pouvait pas écrire de roman. Donc il a fait ce qui lui semblait le plus simple et le plus misérable à faire, c'est-à-dire une méthode d'écriture. Il a dit « ma méthode d'écriture est meilleure que les autres parce qu'elle est plus brève, donc il y a moins de conneries ». Et il explique un truc, mais il explique mille choses, il faut lire ce livre. C'est à ce moment-là que la France s'est mise à s'intéresser à Stephen King, parce qu'on s'est dit, tiens, puisqu'il écrit une méthode d'écriture, c'est peut-être un grand écrivain. C'est déjà un grand écrivain depuis 30 ans, mais c'est pas. Il y a un moment, il explique un truc sur les descriptions dans les romans. Votre personnage entre dans un bar. Si vous détaillez tout ce qu'il y a dans le bar, ça veut dire que votre personnage travaille pour un magasin d'ameublement et qu'il a vraiment quelque chose à faire là-dedans de particulier. Vous faites un roman historique. Si vous avez besoin d'expliquer que votre personnage se bat avec une épée bâtarde dans la main droite et avec une main gauche dans l'autre parce que c'est ainsi qu'on combat, ça veut dire qu'il n'est pas à cette époque-là. Parce que s'il a vraiment ces deux armes-là, il les prend puis il tape. Donc cette idée, le moment où on ouvre un livre d'histoire pour se documenter sur quelque chose, il faut faire très attention parce que si on en met un peu de trop, les gens vont penser que ça ne se passe pas à cette époque-là. Donc pour décrire la Première Guerre mondiale sur le front russe, d'abord je suis allé sur le point que connaissent le moins mes lecteurs parce que nous, la Première Guerre mondiale, on connaît les tranchées. Là, il faut se mettre dans l'idée d'un monde où le front peut bouger de 500 km en 3 jours, parce que ça se fait à cheval, et où là, on a, je ne sais pas, des êtres supérieurement civilisés qui sont les Allemands, qui ont un génie formidable, des trains, des armes pour tous et des munitions ultra-modernes, et en face, des paysans russes qui ont un fusil pour 10 combattants, qui sont à pied la plupart du temps, qui n'ont même pas de chaussures, ils se mettent des bandages sur les pieds, et donc on a affaire à une guerre d'hommes civilisés contre des hommes de Cro-Magnon, et ça c'est passionnant de raconter ça. Donc pour m'y mettre, j'ai jeté les livres d'histoire et je me suis mis à fond dans des romans de l'époque. Je me suis mis à fond dans Isaac Babel, dans Cavalerie Rouge, quand il raconte. Et on voit bien les détails qu'il met et les détails qu'il ne met pas. Et les détails qui l'intéressent, c'est qu'à un moment, un de ces hommes se sont mis à écraser la tête du noix par terre et ça l'a chopé. Et alors ça, dans sa journée, c'est ça qui a été intéressant. Ou à un moment, il n'a plus de lunettes. Et ça, c'était embêtant quand même quand on est à cheval. Alors j'ai essayé d'aller dans cette immédiateté-là. Et peut-être c'est ça qui fait naître des images. Comme quand on écrit une chanson, c'est... Il faut presque écrire. Moi, j'écris pas, en fait, je lis. Je me dis pas, je suis en train d'écrire. Et la difficulté, alors ça, c'est ce qu'on se racontait hier. Faut que je fasse très gaffe aux conneries que je raconte, parce que Amélie Nothomb a raconté il y a 15 ans qu'elle avait bouffé des fruits pourris depuis. L'industrie du fruit pourri a beaucoup grandi. Enfin, moi, j'ai eu le malheur de dire il y a 3 semaines que j'ai écrit dans ma baignoire. Je sens que beaucoup de combattusiers vont faire des. La réalité, je m'en foutais de la baignoire. C'est que comme je fais des dessins tout le temps. Là, je voulais écrire sans dessin, donc j'ai dû trouver la seule pièce de la maison où il n'y avait pas des dessins, des posters, des machins, des trucs. Donc c'était la salle de bain, parce qu'il y a du carrelage partout. Et ça m'inspire. Des fois, je fais le truc de Salvador Dali aussi. Vous savez, il appuie sur les yeux, puis il voit des taches, puis il décrit les taches. Ça dit quand même qu'on cherche un rêve. On n'est pas endormi, mais on a envie de se mettre en...
On va faire un test. Vous disiez qu'à un moment donné, vous êtes dans les livres, mais qu'à un moment donné, il faut lire des livres d'histoire et tout ça. Vous êtes aussi attaqué à des personnages, à des êtres qui ont réellement existé, comme Gainsbourg, comme Chagall, comme Brassens, dans le cas d'une exposition. Comment est-ce que vous attaquez à ces monstres sacrés pour en faire vos monstres, si je puis dire ?
Il faut toujours que ça renvoie à la valeur. Il faut toujours qu'en ayant vu ou lu ce que je leur donne, les gens aient envie d'aller voir vraiment le truc. Si je commence à faire une biographie de Chagall et que je me fais passer pour un historien, les gens ne vont pas y aller. C'est-à-dire que s'ils voient mon récit comme une fantasmagorie, mais réellement inspiré par l'œuvre qui m'a ému, ils vont aller voir le vrai artiste dont il est question. C'est comme l'absolu de ça, le lieu où c'est le plus absurde, c'est l'émission de radio que je fais en ce moment pour France Inter, qui s'appelle « Vous voyez le tableau ». Le principe, c'est qu'on ne le voit pas parce que c'est la radio. Donc je me mets devant une œuvre, je fais comme si tout le monde la voyait, je fais comme si tout le monde voyait le dessin que je suis en train de faire, puis on voit ni l'œuvre ni le dessin, on m'entend juste baragouiner, parce que, c'est ce qu'on s'est dit avec Philippe Val, on s'est dit aujourd'hui les reproductions des œuvres sont tellement bien, sur iPad, sur écran, sur machin, que tu as des universitaires qui arrivent à faire leur thèse sans jamais sortir de leur bureau. Si tu leur demandes, tu as travaillé un an sur cette thèse, d'accord, réponds à cette question, si c'est non, tu l'as pas. Tu es allé les voir les œuvres en vrai. Là, tu as un gros silence parce que généralement, ils ne vont pas les voir. Ils ont... Et ce dont je rêve, c'est de provoquer des visites au musée. Donc, c'est un peu la même chose. Quand je vais sur Brassens, quand je vais sur Gainsbourg, quand je vais tout ça, j'ai envie qu'après les gens achètent le livre de Gilles Verland et voient si Gainsbourg, c'était vraiment ça, son quotidien. Si c'était... Voilà, donc, il faut parler du réel, mais il ne faut pas s'y substituer, je crois.
Et en quoi est-ce que la peinture, l'art, peut-être la sculpture aussi, ce sont des éléments qui vous inspirent ?
Alors moi, c'est ma religion. Moi, j'ai toujours trouvé que les temples, c'était bien, mais c'était pas toujours très bien décoré, on s'ennuyait un peu. Quand j'étais petit, à Kippour, j'avais le droit d'emmener des schtroumpfs. Alors, enfin, tu passes 12 heures avec un schtroumpf, c'est très fatigant, vous avez. Et Napoléon a voulu ça. Napoléon sentait qu'on allait devenir un pays cosmopolite. Il voyait que dans son armée, les meilleurs soldats étaient musulmans. Il était très sensible à ça. Et à un moment, il a voulu se convertir à l'islam, mais c'est mal passé, on lui a dit que c'était pas bien. Alors, il est revenu, et il s'est dit qu'il allait nous falloir des nouveaux temples pour ce monde moderne. Donc, il a piqué des œuvres d'art partout, et il les a mises au Louvre. Et le Louvre, c'était censé être le symbole du bon côté de Napoléon. Et moi, ça me plaît bien, ça, de dire que dans une société multiculturelle, le temple, ça doit être le musée. Donc, il y a chez moi, oui, une volonté constante de rabaisser la religion et de remonter le musée. Parce que le sentiment religieux, je le ressens là. Je le ressens face à une œuvre qui a été créée pour rehausser l'homme, pour dire à un homme, même si c'est, quelle que soit son origine, ça peut être des œuvres profanes, ça peut être des œuvres saintes, ça peut être toutes sortes de choses, mais ça me rend heureux, ça me nourrit, ça me plaît qu'on mette ça très haut. Et c'est intéressant ce qui se passe en ce moment. Il y a toutes sortes d'initiatives. Ils ont ouvert récemment le Louvre de Abu Dhabi. Alors, moi, j'ai commencé à faire mon petit scandalisé habituel. J'ai dit, tu vas voir qu'il n'y aura pas de femme à poil là-dedans, qu'on va encore leur vendre un ersatz du Louvre. Et on fait, eh ben, c'est pas vrai. Dans le Louvre d'Abu Dhabi, il y a des crucifixions et il y a des femmes à poil. Alors là, je dis bravo. Ça, je trouve ça ultra réussi. En revanche, ils nous ont fait un truc super bizarre il y a quelques mois, parce que forcément, il y a du fric pour l'utiliser. Ils nous ont créé le département des arts islamiques du Louvre. Les œuvres sont formidables. Simplement, c'est la première fois qu'au Louvre, on place des œuvres par religion. Au Louvre, il n'y a pas un département des crucifixions. Au Louvre, il n'y a pas un département de l'art chrétien. On peut classer les œuvres par période, on peut les classer par lieu géographique, mais l'islam, ce n'est pas un peuple. Et l'islam, ce n'est pas un pays. Donc, on a décidé, pour faire plaisir à des sponsors, de classer des œuvres par religion. Et résultat, parce qu'on est toujours puni dans ces affaires-là, résultat, c'est pas cohérent. Résultat, il y a des œuvres très intéressantes, mais dont le classement est absurde, et on voit qu'on a créé une aile de musée pour faire plaisir à un investisseur privé. Et alors, donc, en conclusion, le Louvre à Abu Dhabi, super, le département des arts islamiques, je suis pas très fou. Et moi, j'aime bien m'embêter tout le monde là-dessus, et j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, et bizarrement, ce truc, moi, je l'avais entendu nulle part avant que je le dise à la radio.
Vous parlez de classification, et c'est vrai qu'en France, on a cette tendance à mettre les gens dans des petites cases, dans des petites boîtes, et à dire, voilà, il y a la littérature pour enfants, il y a la littérature pour adultes, il y a le cinéma, il y a la BD, on déconstruit tout. Est-ce que vous, votre vrai désir, c'est justement de traverser toutes les frontières ?
Non, je ne sais pas. En fait, je ne le fais pas exprès parce que je suis ultra réac, en fait. J'aime le cinéma de cinéphile, j'aime les romans classiques. Non, je crois juste que j'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie de me caricaturer moi-même. Et j'ai la chance d'écrire et de dessiner, donc j'essaye de faire des choses pertinentes. Il y a peut-être aussi que j'ai eu la chance et l'ennui de faire un best-seller. C'est très embêtant d'avoir fait le chat du ravin, parce qu'après on sent qu'en bande dessinée, tout va être comparé à ça. Et j'ai eu la chance d'être assez proche de Art Spiegelman, et j'ai pas du tout envie d'être Art Spiegelman. J'ai pas du tout envie d'être le mec qui a fait Mouse il y a 20 ans, et qui depuis galère parce qu'il fait des conférences sur Mouse à travers le monde. Le chat du rabat n'arrive pas à la cheville de Mouse, hein, c'est pas ça que je veux raconter. Mais on peut dire Titeuf avec Zep. Donc moi, ça m'amuse d'aller dans des terrains où il y a moins le chat du rabat.
Mais c'est traverser des frontières, je trouve que quelque part, ça peut s'appliquer à votre roman aussi, parce que votre héros va traverser des frontières géographiques, des frontières existentielles, parce que va devenir un être vivant, puis se transformer en vampire tout en ayant un peu de mal à assumer tout ça. la traversée d'époque aussi, parce que voilà, il a la chance ou la malchance d'être totalement immortel et du coup bah, de vivre des centaines d'années. Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans?
C'était. Ben, je voulais suivre le quotidien d'un vampire, je voulais y croire. Ben, j'adore les histoires de vampires, je suis un gros fan de récits de vampires. Et c'est vrai que depuis qu'il y a eu le virage Twilight, ça m'a un peu gonflé parce qu'elle ne respecte pas les règles. On peut tout faire avec un récit de vampire, mais il faut respecter les règles. Il ne faut pas qu'il sorte pendant la journée, il faut qu'il se nourrisse de sang, il faut qu'il fasse vraiment peur, il faut qu'il ait un problème avec les miroirs. Alors on peut l'expliquer comme on veut, mais elle est sortie du truc, alors ça m'a énervé. Alors moi j'ai voulu faire mon récit de vampire bien réac, qui respecte les règles. Et ce qui est amusant, c'est comment elles évoluent, ces explications. À l'époque de Bram Stoker, on vous explique que pour devenir un vampire, il suffit d'être mordu par le vampire. Mais ça, si on réfléchit, on se dit, bah, en 3 semaines, on sera tous des vampires, ça ne va pas marcher. Après, il y a une personne qui nous trouve une autre explication formidable, c'est Anne Rice. Alors Anne Rice, il dit, non, c'est pas ça. Tu deviens un vampire si le vampire te fait boire son sang. Alors ça, c'est une très jolie idée. Et moi, j'ai essayé d'en trouver une qui me correspondait mieux. Je me suis dit, mais moi, à titre personnel, qu'est-ce qui pourrait me faire revenir d'entre les morts, l'idée du revenant? Ah, bah dans mon cas, c'est qu'on brisait le cœur. Donc, il est parti à la guerre juste avant son mariage, manque de bol, il est mort. Son frère s'est envoyé sa nana, alors au moment où ils s'embrassent, d'ailleurs, il revient quand même. Et ça, ça m'a amusé. Et ce qui est formidable dans commencer finalement à faire des romans, c'est se confronter à des règles. Et j'ai voulu travailler dans un récit avec des règles très précises, c'est pour ça que je voulais faire un récit de vampire. Il y a de grands films et de grands romans de vampires en ce moment qui respectent ces règles-là. Quand on voit 30 jours de nuit, quand on voit Let Me In, quand on voit le Agneau Dracula de Kim Newman, je ne sais pas qui a lu ça, c'est extraordinaire. Kim Newman, c'est le plus grand critique de films d'horreur anglais. Il a fait un roman complètement cintré où Dracula a épousé la reine Victoria. Donc du coup, dans l'Angleterre victorienne, ça devient le comble du chiffre d'être un vampire. Et le héros, enfin en gros le méchant de l'histoire, donc le héros, c'est le docteur Seward, c'est le chasseur de vampires de Dracula, qui va s'en prendre aux femmes vampires et il commence à en massacrer plein dans Whitechapel, et c'est Jack l'Éventreur. Sauf que ses victimes sont des femmes vampires. Mais là, il respecte toutes les règles du truc, il a mis à fond dans 30 jours de nuit, il respecte tout, sauf que ça se passe dans le nord de l'Alaska ou du Canada, dans un lieu où il fait nuit pendant 30 jours, donc forcément ça fait beaucoup plus peur. Et ça me plaît beaucoup. Quand on va dans un genre et qu'on en respecte les règles, ça me plaît.
Respecter les règles, mais en même temps, vous imaginez des entre-deux. Parce que votre chat, par exemple, n'est pas tout à fait un chat, puisqu'il a la parole. Votre vampire, c'est pas le vampire prototype habituel, parce qu'il n'est pas si heureux que ça d'être vampire. Il ne peut pas dévorer la femme qu'il aime, il préfère danser avec la nuit. Il adopte un chien, comme vous dites, ce qui est quand même assez inédit. Qu'est-ce que vous aimez dans cet entre-deux et de rendre ces êtres tellement singuliers aussi?
Ah bah pour y croire. C'est toujours pareil. Moi, j'ai besoin d'y croire dans ces personnages-là, donc j'essaie de me demander ce qu'ils font de leur journée, comment ils s'occupent. Il y a peut-être une chose un peu souterraine chez moi, c'est pour ça que ça s'appelle l'éternel. C'est que dans la plupart des récits, surtout de cinéma américain, un peu d'action ou quoi, c'est des réactions de cause à effet. Il y a des réactions en chaîne, et après, pendant les dernières minutes, tout explose et James Bond tue le méchant. Moi, ce qui me plaît, c'est les épisodes des Sopranos où pendant 20 minutes, il y a Tony Soprano qui bouffe de la glace. Et on se souvient que c'est un type de la mafia, on se souvient qu'il est dangereux, mais les 20 minutes pendant lesquelles il bouffe de la glace, c'est ce dont on va se souvenir. Donc quand on crée ce que j'appelle la permanence tragique, c'est le moment où on touche du doigt quelque chose, ah oui, nous c'est ça notre vie, ah oui, nous c'est ça. Dans la série télé Mad Men, je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière saison, le héros vient de divorcer, il a une maîtresse qui est formidable, son travail va plutôt bien, il court, il va d'un étalage à l'autre, d'un machin et tout, on l'appelle, il appelle l'ascenseur s'ouvre, il avance, l'ascenseur n'est pas là. Et il y a 6 étages de vide en dessous. Et après, on passe à autre chose. Ça, c'est une rupture dans le récit. Ça, c'est de l'existentialisme. Et ça, c'est un récit presque épique, parce que Mad Men, c'est presque un récit de chevalerie, qui va au-delà du récit de vie, qui va au-delà du journal du quotidien ou de ce qu'on nous affiche beaucoup aujourd'hui dans les livres que je lis pas. Et il nous dit quelque chose sur notre quotidien. Il nous dit le moment où le personnage perd pied. Et mes profs de philo, ils appellent ça le chiffre esthétique de l'existence, ce qui est une espèce de petite musique qui est présente dans tout. Donc moi, l'école à laquelle j'ai été, grâce à mes profs de philo, c'est le tragique. Le tragique, c'est pas quelque chose qui va se passer à un moment. C'est quand on lit Sophocle, dès le début, c'est pas il va lui arriver ça, c'est lui arrive ça. Ça me plaît bien. Donc lui, forcément, il fait le même truc toutes les nuits, donc il lui arrive ça.
Sans faire la psychanalyste, la Woody Allen, parce que c'est pas ma spécialité, vous parlez de cet épisode de l'ascenseur, vous passez d'un projet à l'autre constamment, est-ce que c'est aussi quelque part la peur du vide qui vous nourrit?
Ouais, il y a une recherche de plaisir aussi, hein. C'est-à-dire que moi, les romans, ça me rend très heureux. Donc ça, j'arrive à en faire qu'un à la fois, je suis content comme tout. Les bandes dessinées aussi, sauf que j'arrive pas à les finir, parce que comme j'écris beaucoup plus vite que je ne dessine, je fais des BD de 40 pages, c'est l'introduction de ce que je voudrais faire, et je trouve jamais la patience de dessiner la suite, et mes lecteurs sont pas contents après moi, et on n'aime pas avoir des lecteurs pas contents, donc le roman m'a rendu vraiment heureux. Après, en cinéma, j'ai eu une boulimie qui est justifiée par autre chose, c'est que je veux faire des films fantastiques et c'est difficile de les monter. Donc, c'est pathétique, je travaille en ce moment sur 7 ou 8 films différents, dont aucun démarre. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que je ne suis pas le seul. C'est le cas de la plupart de mes copains qui essaient de faire du cinéma fantastique ou du cinéma d'horreur ou des choses comme ça. Donc, il y a ça. Ensuite, je ne crois pas vraiment que je travaille pour me psychanalyser. Je crois que je mens beaucoup. Je crois que j'emmène beaucoup mes lecteurs dans des lieux. Je mens énormément. En fait, je ne suis pas forcément le personnage qu'on s'imagine. Ou si j'utilise des choses de ma vraie vie, ce n'est pas parce que j'ai envie de m'exprimer, c'est parce que j'ai envie de faire une bonne histoire. Moi, je m'en fous. En fait, je m'en fous d'aller mieux. Je veux que l'histoire soit bien. Donc, je crois qu'il y a une envie d'éternel retour dans le roman, qui est un peu l'inverse de la psychanalyse. Le rêve de la psychanalyse, c'est de comprendre comment on a été pour mieux se connaître et pour que ça aille un petit peu mieux. Je crois que le connais-toi toi-même en littérature, il a un sens rigoureusement inverse. Il y a un désir enfin, pour moi en tout cas, de permanence.
Vous avez aussi exploré déjà énormément d'univers. Quel est vraiment l'univers que vous rêvez d'intégrer, d'habiter et de nous faire vivre?
Je ne sais pas du tout. Pour moi, c'est tout. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai des petits jouets, puis je change. Il n'y en a pas 50. Hein. Il y a les monstres de films d'horreur, il y a les mousquetaires et les personnages un peu épiques, et il y a les immigrés russes avec une vie sexuelle épanouie et des angoisses. J'ai l'impression de naviguer entre ces trois trucs-là et de m'amuser beaucoup avec ça. Là, en ce moment, ma grande affaire, c'est le philosophe français. Ça m'amuse beaucoup. Et alors là, je travaille sur une histoire là-dessus où j'essaie de beaucoup écrire sur un type qui veut être le plus grand philosophe de France, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et manque de bol, il est au XVIIIe siècle, donc il y a une concurrence un peu féroce. Et ce sera à peine un récit à clé parce qu'on reconnaîtra évidemment tous les grands philosophes d'aujourd'hui. Et je crois que c'est rigolo. Je trouve que la philosophie en France a un statut très particulier. On doit être le pays au monde qui aime le plus la philosophie. Et en même temps, quand on étudie les philosophes français, on les fait en classe de première et on les met en littérature. Quand on passe en classe de philo, on étudie beaucoup moins de français. Ça, c'est un paradoxe intéressant.
Ça peut vous consoler, en Belgique, on ne les étudie pas du tout. Vous l'avez bien compris, l'univers de Jeanne Sarre est très vaste. Moi, j'ai à peine posé quelques questions pour en avoir quelques clés, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui en ont également. Pas timide, il ne mord pas, même s'il parle de vampire.
Premier vampire, qu'est-ce qui vous a inspiré? Je suppose que vous avez dû voir des films de vampires quand vous étiez petit, ou des lectures.
Oui, mais...
Maintenant, je sais que personnellement, j'en ai vu, j'en ai des études, ça m'a marqué pendant un certain temps.
Oui, ça fait peur les vampires. Moi, j'ai toujours adoré les films d'horreur et je n'avais pas le droit de les voir parce que j'étais trop petit. Alors, mon grand-père m'a acheté les revues de films d'horreur, Malcolm's, Écran Fantastique, tout ça, je les ai tous depuis le numéro 1. Je les découpais et je faisais des romans photos avec. Et comme je ne connaissais pas bien les histoires, je m'inventais des histoires. Et évidemment, ils étaient toujours gentils, les monstres avec moi. Alors, ils étaient horribles d'un équipement, mais ils étaient toujours assez gentils. Après, le film me fait plus peur, mais mon grand-père était copain avec l'ouvreuse du cinéma, et il m'avait fait voir une fois un film d'horreur italien qui s'appelait Le Commando des morts-vivants. Alors j'imagine que ça ne fait pas aussi peur que je crois. C'est des vacanciers italiens qui se font massacrer par des zombies nazis. Et à un moment en particulier, ils poussent une fille dans l'eau, et elle se fait piquer par plein d'oursins géants, et elle sort, elle a plein de piqûres d'oursins. Pendant 3 semaines, je n'osais pas les faire piquer. Voilà, c'était mon initiation à l'horreur. Le premier préfilm que j'ai vraiment vu, c'est Le Commando des morts-vivants.
Monsieur?
Albert Camus n'était pas philosophe, et pourtant il représente pour moi, je pense, au XXe siècle, une bonne image de ce qu'est la modernité en philosophie. Je parle assez fort. Et vous, est-ce que vous ferez un essai comme le mythe de Sisyphe ou...
Merci. Non, moi, je n'ai pas les compétences. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs de philo formidables. Donc mon père m'a obligé à faire philo. Moi, je voulais faire directement les Beaux-Arts à Paris, mais il voulait que j'aie fait des vraies études. Et j'ai eu la chance d'aller à la fac de philo de Nice, où tous les plus grands profs de Paris demandaient 3-4 ans tranquille avant la retraite. Donc j'ai eu Clément Rosset, j'ai eu Jean-François Mattei, j'ai eu M. Charles, qui est grand musicologue, j'ai eu André Flécheux sur le romantisme allemand. Donc j'ai eu la chance d'entendre des vrais philosophes, du coup je n'aurais jamais dû me mesurer à eux. Par contre je crois que c'est un sujet intéressant, je crois qu'il ne faut pas s'interdire un sujet sous prétexte qu'on est incompétent. Alors moi je suis comme le chien qui remue la queue et qui est toujours content, c'est-à-dire... C'est pas parce que je connais pas que je vais pas essayer d'y aller. La preuve la plus flagrante d'incompétence, c'est que cet été, France Inter m'envoie sur le Tour de France. Mon père a passé toute mon enfance à me mettre sur un vélo, j'ai pas arrêté de tomber. Et là, je l'ai appelé tout fier en disant que j'allais faire le Tour de France. Je n'ai jamais été aussi heureux et autant convaincu que la radio publique était aux mains d'un capable. Mais je crois que ça m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Où on ne parle finalement que de crise et de conflit, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite émission sur les tableaux, Philippe Val m'a dit, essaie de parler aux gens de trucs que t'aimes vraiment. Et je me suis dit, tiens, aller au musée, j'aime bien. Suivre le Tour de France, le vélo, je m'en fous complètement. Par contre, faire le tour de notre pays aujourd'hui, ça m'intéresse énormément. Moi, j'ai la chance, avec mes livres, de voyager beaucoup en France pour faire des signatures. Je ne vois pas la France qu'on nous raconte. C'est vrai que je vois une France qui s'est appauvrie depuis une dizaine d'années, où il y a une vraie détresse, etc. Mais je ne vois pas la haine qu'on nous raconte à la télévision. Je vois du désespoir, c'est pas du tout la même chose. Et je vois pas un pays endormi, qu'on nous raconte beaucoup. On nous explique tout le temps qu'on est des incapables, ce n'est pas ce que je vois. Donc je ne veux pas faire semblant d'être exagérément optimiste, mais ça m'amuse cet été de faire le tour du pays et de raconter ce que je vois. J'ai en ce moment, donc toujours pour mon récit sur les philosophes, je me suis remis à lire plein de philosophes du XVIIIe siècle, je n'avais pas lu depuis mes études, ça ne m'a pas beaucoup inspiré. Par contre, je suis allé lire Les Voyages de Bougainville, que je n'avais jamais lu. Alors, ce n'est pas un grand penseur, par contre, il se déplace et il raconte ce qu'il voit, et c'est super. C'est vraiment super. À un moment, ça c'est l'anecdote la plus cocasse, mais il débarque dans une petite île tahitienne et il veut faire plaisir aux indigènes, il leur amène des clous en fer. Et en fait, ils connaissent déjà et ils appellent ça Aïrou. Alors, c'est formidable, ils ont du fer et tout. Et quand ils se rendent compte qu'ils ont aussi la petite vérole, ils se disent c'est le Iron des Anglais. En fait, les Anglais m'ont précédé.
Et votre philosophie de vie, alors, ce serait quoi?
Moi, j'ai pas. Je lis beaucoup Bachelard parce que c'est tellement bien écrit que ça me donne envie d'écrire. Je lis très souvent Sénèque ou Platon parce que je comprends ce qu'il y a dedans. J'ai pas de philosophie de vie. Je suis très heureux de raconter des histoires et en fait je commence une histoire sur une question que je me pose, pas sur une question dont je connais la réponse, et je vais mettre en présence des personnages qui pensent des choses différentes et je vais voir comment eux règlent le conflit, je vais un petit peu les laisser faire.
Si c'est la philo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Oui, allez-y.
Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question au ras des pâquerettes?
Oui. Je vais jamais beaucoup.
Je suis d'abord extrêmement heureux et je partage avec vous cette idée que l'unité humaine se lit dans la diversité. Mais alors, question très très pratique. Vous qui êtes pour la diversité, seriez-vous frappé de parisianisme dans la mesure où on n'entend pas votre accent niçois? Où est-ce que ça
vient? C'est une excellente question, d'autant qu'on me reproche de me l'être inventé depuis que je fais de la radio, mon accent niçois. J'ai grandi dans une famille avec mon grand-père qui avait un accent d'Europe de l'Est, ma famille paternelle qui avait un accent pied-noir, et comme j'étais à l'école au port de Nice, tout le monde parlait avec cet accent niçois qui est très loin de Marseille. Et je ne l'ai pas, en fait, dans la vie, je parle comme ça. Sauf à la radio, je me suis rendu compte que quand je commentais les tableaux, si je dis « Et là, cette crucifixion de Mantegna est formidable parce que personne n'écoute. » Parce que là, et là, Mantegna, il te plante le clou, loin dans la main, et le cadavre, il ne tombe pas, parce que le Christ, il est musclé. Et tu te dis, les commentateurs sportifs, pourquoi ils parlent comme ça? Parce que c'est le seul moyen que les gens entendent. Et ça, et quand je m'énerve, quand je me dispute, ça revient. Mais à vrai dire, c'est vraiment un lieu de passage, Nice. Donc on a... Il y a les expressions aussi de Nice, mais voilà. L'accent, il me vient à la radio. Je le force un peu.
D'autres questions parmi vous? Oui, allez-y.
Vous avez parlé. Merci. Vous parliez tout à l'heure de votre urgence d'écrire. Vous dites, j'ai bientôt 42 ans, il faut que je fasse plein de trucs, que j'écrive une histoire... sur un vampire qui est éternel et qui a drôlement du mal à écrire quelque chose parce que justement il est éternel. Vous parlez avec une urgence, on dirait que c'est une course permanente pour vous d'exister. Et je voulais savoir si vous disiez, j'ai 8 films en préparation, c'est vachement difficile, il n'y en a pas un qui démarre pour l'instant. Est-ce que vous avez peur de mourir avant de tout finir? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça fait peur, la mort ou pas?
Pas comme ça. Pas comme ça. Ma mère est décédée à l'âge de 26 ans. J'ai 14 ans de plus que ma mère quand elle est morte. Donc ça fait très longtemps que je suis dans le cosmos. J'ai grandi avec la certitude que je mourrai au même âge que ma mère. Donc je suis dans un cosmos qui n'a pas beaucoup de sens pour moi, sinon à me raccrocher à mon rôle de père, à mes deux enfants, à mes quatre chats et à mon chien. Mais non, je crois que j'ai besoin de cadres, j'ai besoin de gens qui savent me dire non. C'est pour ça que c'était très agréable d'aller en roman, parce que là je ne peux pas faire ma star, c'est pas comme les BD. Donc l'éditeur, il considère que je fais partie des recherches et développements de chez Albin Michel. Donc il sait me dire non, il sait me faire réécrire, il sait me faire mettre des choses à la poubelle, peut-être pas assez, mais enfin il me fait quand même pas mal. Et disons que non, moi j'ai besoin qu'on me dise des cadres. C'est pour ça que j'étais extrêmement heureux sur le tournage du film de Gainsbourg, parce que j'avais qu'une chose à faire, c'était ce truc-là. Il y avait un travail d'équipe, et c'était épuisant. Donc je finissais crevé, je dormais. J'étais très heureux sur l'expo Georges Brassens, parce que là aussi on était une équipe d'une centaine de personnes, on avait que ça à faire, et il y avait plusieurs mois qui étaient consacrés qu'à ça. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir une grande œuvre à faire, c'est vraiment pas ça. Par contre, je suis très heureux quand j'écris, quand je dessine, et ça me calme. Et puis là, vous me voyez super bavard, mais souvenez-vous toujours que comme je suis dessinateur, c'est 8 heures par jour, tout seul, sans parler à personne. Donc dès qu'on me sort, forcément, j'embête les gens, quoi. Et puis tout ce que je vous dis, c'est autant de moi à embêter ma femme, donc c'est ça le délire. Mais je suis pas bavard toute la journée, c'est ok.
On va peut-être prendre encore une question et après, Jeanne-Sophie sera obligée de nous quitter pour prendre un train. Donc, allez-y, monsieur. Bon, je pensais au fond.
Ça va être super intéressant, mon train, je vais faire Saint-Malo, Rennes, Paris, Paris-Londres. Je peux le faire ce soir. C'est bien.
Alors, ben, je rappellerai juste le titre de votre roman, donc L'Éternel. Chez Albin Michel, merci beaucoup Joël Sparre et merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup.